Radio Grand Ciel présente Histoire et Mémoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, 28 avril 2016, nous assistons au pèlerinage de Saint Fiacre dans la belle église de Villevillon. Monseigneur Michel Pansard est venu célébrer la messe dominicale à cette occasion, messe qui a été suivie de l'imposition des évangiles. L'église de Villevillon est située au cœur du Perchegué, sur la route de Chartres. Elle a connu bien des vicissitudes, mais grâce à la municipalité, au courage des habitants par le biais de leur association, du Pèlerin Magazine, de la Fondation Gorille Lafond et de la sauvegarde de l'art français que je représente en Eure-et-Loire et qui a contribué à la réalisation de gros travaux en 2001 et 2005, l'église a été sauvée. C'est pourquoi nous sommes heureux, à l'issue de ce pèlerinage, de nous retrouver autour de Monseigneur Pansard pour évoquer l'art de Villevillon, à la fois fruste et naïf, mais combien émouvant dans la sincérité et ce pèlerinage à Saint-Fiacre. Monsieur l'adjoint au maire, Monsieur Chauvin, Monsieur le teinturier, président de l'association, Monsieur Philippe Siguré, président honoraire des Amis du Perche, un grand historien, et Monsieur Jean-François Suzanne, président des Amis du Perche de l'Orne, sont venus se joindre à moi. Monsieur le maire adjoint, bonjour. Vous êtes depuis longtemps dans ce village. Vous y êtes né. Vous y êtes né et depuis combien de temps vous êtes à la mairie, au conseil municipal?
Depuis 2 ans, depuis le dernier mandat.
Depuis le dernier mandat. Est-ce que vous pouvez évoquer pour nous ce village?
C'est quand même un village d'anciens, beaucoup. J'ai participé parce que mon papa a participé à la première restauration du clocher quand il était tombé par la tempête.
En 1971, je pense.
Oui. Et bon, donc c'est comme ça que j'ai été amené à participer davantage aussi. Parce mais à ce moment-là, tout le village participait à la restauration du clocher.
Ça, c'est
c'était
très
que des bars, c'était que des bénévoles.
Voilà. Au départ, il y a eu
c'était
que
une association,
des bénévoles,
voilà,
association qui était donc essentiellement faite pour la restauration de cette si belle église.
Voilà.
Parce qu'on peut dire que c'est une des grandes églises du Perche.
Voilà. Et après, l'association a pris le relais de la bénévole.
C'est ça. Et cette association a été reprise justement par le président qui est là, ici, c'est Monsieur le Teinturier. Oui. Monsieur le Teinturier, bonjour. Vous êtes venu plusieurs fois à Radio Grand Ciel dans notre studio, car il s'est passé beaucoup de choses dans cette église et vous avez toujours voulu en témoigner. Alors, nous sommes tous ici réunis. Pour vous, ça doit être une grande joie de voir cette église remplie de pèlerins, puisque notre évêque tout à l'heure va évoquer pour nous ce pèlerinage. Donc, quelles sont les dernières choses que vous avez pu faire dans cette église?
Nous avons récemment refait l'ensemble des voûtes. Nous avons ressorti les peintures murales. Nous avons fait des tests de tous les murs de l'église et nous nous sommes aperçus qu'elle avait été entièrement peinte. Et nous savons qu'est-ce qui était peint. C'était les apôtres. Et les apôtres, c'est très intéressant parce qu'en même temps, ils s'insèrent dans l'architecture de l'église. Chaque pilier, chaque poutre correspond à un apôtre. Donc l'église est construite en quelque sorte sur une procession des apôtres. Et on l'a découvert grâce aux peintures.
Est-ce que vous pourriez nous dire exactement, puisque nous sommes dans cette église, les poutres qui représentent quel apôtre, par exemple?
C'est assez long, il y en a 12. Hein.
Oui,
non,
oui,
mais je veux dire simplement, la première découverte, c'est dans le fond, là-bas, Saint-Barthélemy. Et quand on a un seul apôtre, on a tous les autres, puisqu'ils sont dans l'ordre des apôtres.
Et sans doute que ça doit reprendre hein, un passage des Écritures qui évoque les apôtres comme les 12 colonnes sur lesquelles l'Église tient. Alors, pas simplement l'Église de Pierre, hein, mais l'Église, hein,
en général,
l'Église en général, avec tous ceux
C'est exactement ça. Et donc, on sait que là-bas, c'est Saint Philippe, etc., Saint Jean, enfin, Saint Pierre, Saint Paul.
Etc. Monseigneur, je crois que vous pouvez peut-être nous redire.
Pierre, Jacques et Jean, André, Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude.
Formidable.
Voilà, enfin.
Formidable.
Mais vous savez que ce n'est pas exactement suivant les évangiles, il y a quelques petites variantes.
D'accord.
Donc, il y a ça. Et puis, en même temps, nous avons fait une grande restauration du mobilier qui, lui, date du XVIIe siècle. Hein. Et c'est du mobilier de style Louis XIV pur, correspondant à la Réforme, et qui a entièrement recouvert les murs de l'église. Hein. À l'époque de Louis XIV, toute cette église était boisée, avec un retable qui supportait les magnifiques sculptures. Donc l'aspect à cette époque était totalement différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Mais c'était le style de l'époque qui a disparu pratiquement à la Révolution. Parce que là, il y a eu un pillage très important, mais visiblement, les habitants de Villevillon ont sauvé ce qui était le plus sain, c'est-à-dire les statues, les meubles, et puis la statue de la Vierge, hein, qui a été conservée. De même, ils ont sauvé une cloche. À l'époque, toutes les cloches étaient fondues. Eh bien, les habitants ont défendu leur clocher, ils ont gardé une cloche, qui est toujours là.
À ce propos, les hôtels Villevillon, on a un historien, Philippe Siguret, et j'aimerais que vous nous retraciez, Philippe Siguret, cette histoire de Villevillon.
Villevillon se trouve sur l'une des routes qui allait de Chartres au Mans et en Bretagne, par le, au-delà. Et cette route, évidemment, a véhiculé l'enseignement du christianisme qui s'est diffusé au départ de Chartres à partir des années 350, et christianisme orienté spécialement sur la Vierge Marie qui, selon les traditions de l'Église chartraine, aurait été honorée par les druides, c'est-à-dire avant même la naissance de Jésus-Christ, d'où les statues Virginie Pariturée qu'on voit dans un certain nombre d'églises d'Eure-et-Loire aujourd'hui. Et cette tradition à Notre-Dame, ce qui explique évidemment la dédicace de l'église de Villevillon à Notre-Dame. Par la suite, cette église a été donnée au milieu du XIe siècle à la grande abbaye de Saint-Père de Chartres, qui était déjà largement possessionnée dans toute cette région du Perche-Gouë, car cette abbaye avait bénéficié des largesses de la reine Bathilde, sainte Bathilde, épouse de Clovis II, qui avait vraisemblablement donné son douaire pour l'Église en général. Et donc les traditions se sont maintenues à Villevillon, d'un culte très puissant, ce qui fait que à travers les siècles, même le peu d'habitants qui habitaient cette petite paroisse ont toujours eu une grosse influence, puisque les pèlerinages à la Vierge, certainement, à Saint-Fiacre, à Saint-Blaise, rythmaient un peu l'année pour les habitants du Perche, qui étaient soucieux de s'assurer des protections de la Vierge et des saints de l'église de Villevillon. Elle a été sauvée de justesse à plusieurs reprises. Les habitants, d'ailleurs, y étaient si attachés qu'en 1835, lorsque la commune a été réunie aux hôtels Saint-Éloi, ils ont pu garder leur église, Elle a évidemment souffert des ans, et c'est la raison pour laquelle ces années dernières, il a fallu faire de gros travaux de restauration pour sauver ces murs, qui sont peut-être d'origine carolingienne, vraisemblablement.
Ah oui.
C'est certainement une des plus anciennes églises du diocèse, dans son état actuel, qui garde encore des parties fort anciennes. Et ensuite, au Moyen-Âge, elle a été, comme vient de le dire le président, le teinturier, entièrement décorée de peintures murales, comme c'était l'usage d'ailleurs, d'où les apôtres, c'est très important évidemment, et puis la fresque, le Saint-Christophe également, et les fresques du mort et des vifs, qui étaient un des thèmes à l'après la guerre de Cent Ans, qui était en l'honneur pour montrer l'égalité des chrétiens devant la mort, quelle que soit leur situation sociale ou matérielle dans ce bas monde. Voilà toute l'histoire de Villevillon qui est peut-être résumée ainsi.
Tout ça est très intéressant et moi je dois dire que j'ai été aussi très heureuse de voir que cette église était vraiment remplie de pèlerins. Monseigneur, est-ce que vous pourriez justement évoquer pour nous ce pèlerinage, parce que j'ai l'impression que maintenant les pèlerinages renaissent dans le Perche, du moins. Et là, l'église, vraiment, on voyait tous ces pèlerins qui venaient justement pour un pèlerinage qui est assez particulier, puisqu'il s'agit de l'imposition des évangiles. Alors, peu de gens connaissent ce pèlerinage. Est-ce que, d'abord, vous pourriez évoquer pour nous les pèlerinages dans l'Eure-et-Loire, parce qu'il n'y a pas que le Perche, il y a l'Eure-et-Loire, et puis aussi ce pèlerinage très particulier de Villevillon.
Alors un pèlerinage, qu'est-ce qu'on fait? On marche. C'est la première idée, hein. Ça nous rappelle que les humains que nous sommes, les vivants que nous sommes, et pour les chrétiens que nous sommes, nous vivons en marchant à la suite du Christ. Vous savez que le mot disciple, hein, c'est ceux qui marchent à la suite du Christ. Il y a dans l'Ancien Testament une très belle formule qu'on trouve au chapitre 6 du prophète Michée. On t'a fait savoir aux hommes ce qui est bon. Ce que le Seigneur réclame de toi, rien d'autre que de pratiquer la justice, aimer avec tendresse et marcher humblement avec le Seigneur ton Dieu. Et donc on pourrait dire que tout pèlerinage de quelques mètres, de quelques kilomètres ou de centaines, voire de milliers de kilomètres, comme ceux qui vont à Saint-Jacques de Compostelle, finalement n'est qu'une image, une espèce de raccourci d'un autre pèlerinage qui est celui de notre vie.
Oui, bien sûr. Notre vie, nous sommes. Chacun en soit conscient, d'ailleurs.
Nous sommes un peuple en marche et chacun d'entre nous est en marche, hein, dans ce pèlerinage qui ne s'achève pas par la mort, hein, mais pour qui la mort est une étape vers ce qu'on appelle la Jérusalem céleste ou vers cette vie pleine en Dieu. Belle image, y compris où dans un pèlerinage, on ne fait pas un pèlerinage seul, on pèlerine ensemble. Ce qui est une autre belle image de l'Église. L'Église, c'est un peuple. Et si on avance ensemble, c'est-à-dire qu'on se soutient les uns les autres. On demande à ceux qui sont un peu trop jeunes ou un peu trop rapides, attendez un peu ceux qui traînent, et puis on se soutient, on s'entraîne les uns les autres. Et puis finalement, c'est à nouveau à l'image de notre vie. Dans notre vie, il y a des moments où on est capable d'apporter, de donner, de soutenir les autres. Et puis à d'autres heures, à d'autres moments, heureux sommes-nous parce que nous sommes soutenus et entraînés par les autres.
Justement, vous évoquiez Jérusalem et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Jean-François Suzanne qui est président des Amis du Perche de l'Orne et qui revient de Jérusalem. Jean-François Suzanne, c'était également un pèlerinage que vous fîtes à Jérusalem. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Nous sommes dans cette belle église de Villevillon. Je n'imaginais pas qu'on allait parler de Jérusalem, mais c'est une grande chance.
Alors déjà, c'est un pèlerinage qui a eu lieu avec la paroisse de Saint-Étienne-en-Drouais, avec le père Jean-Marie Lhoult. Nous sommes partis 10 jours, du 11 juillet jusqu'au 21 juillet. On a pèleriné sur place, passé 2 jours dans le désert, 5 jours à Jérusalem, remonté à Nazareth et terminé au lac de Galilée. Quand il nous a évoqué ce pèlerinage, il nous a dit « continuez dans la grâce du Christ ». Moi, personnellement, Je l'ai vécu bien après en revenant ici dans le Perche. Jusqu'à aujourd'hui, on fête encore bientôt la rentrée puisque je suis enseignant aussi à Saint-Pierre, Saint-Pierre-Saint-Paul-de-Dreux. Et en fait, on vit vraiment dans la sérénité. Et je vois que c'est un parcours millénaire de chacun, des hommes, des femmes, des jeunes, moins jeunes, qui ont toujours ce même chemin, ce même cheminement de foi. Et quand on voit ici ce qui a été fait à Villevillon, eh bien, dans la durée, eh bien, on voit que tous les hommes ont essayé de marquer leur empreinte pour vivre la foi, celle du Christ, et en même temps vivre leur proximité locale, parce que tout le monde n'a pas pu aller à Jérusalem, même si des percherons sont rendus dès le XIIe siècle en croisade. Eh bien, c'est un moment important, et être ici avec vous aujourd'hui l'est d'autant plus.
Ça me fait très plaisir parce que vraiment Jérusalem, Villevillon, un vrai bonheur. Monseigneur, j'aimerais que vous expliquiez aussi ce pèlerinage très particulier à Villevillon. J'entends l'imposition des évangiles.
Ce n'est pas particulier à Villevillon, dans beaucoup d'endroits du diocèse, pour la Saint-Marc ou pour plein d'autres, il y a ce rite d'imposition des évangiles. Qu'est-ce que c'est ? Ça fait allusion à une finale d'un des évangiles qui évoque que le Christ s'adresse aux apôtres et leur dit, entre autres, aux malades, vous imposerez les mains, ils seront guéris. Et donc, cette tradition, c'est de prier pour tous ceux qui viennent ici dans ces pèlerinages locaux, parce qu'ils sont malades ou parce que des proches sont malades, ou des amis, ils viennent prier, viennent demander au Seigneur le soutien et la force par l'intercession de tel ou tel saint ici, par l'intercession de Saint-Fiacre, voilà. Une prière d'intercession, c'est-à-dire, on demande, on n'est pas si fort que ça, les uns et les autres dans l'aventure de la vie, et on sait que pour tenir, pour rester des vivants, nous avons besoin de la santé du corps, et nous avons aussi besoin de la santé de l'âme, et donc c'est une prière d'intercession qui demande que le Seigneur accorde la santé du corps, et surtout qu'il donne la vie véritable, la vie éternelle.
Justement, aujourd'hui, il y avait un évangile et votre sermon, Monseigneur, je l'ai beaucoup aimé. Est-ce que vous pourriez, pour nos auditeurs, en dire quelques mots ? Parce que c'était très fort.
Un sermon, c'est fait pour être écouté.
Oui, alors justement.
J'ai évoqué surtout, c'était l'évangile du dimanche où le Seigneur est invité à un repas et puis il fait la leçon en disant, quand vous êtes invité, ne prenez pas la première place parce que sinon vous risquez qu'on vous dise il y a quelqu'un d'autre pour qui elle était prévue. Et puis ensuite, celui qui invite à dire, mais n'invite pas simplement ceux qui peuvent te donner en retour, sois capable d'inviter aussi ceux qui peuvent ne rien te rendre. Les petits, les pauvres, les malades, les pécheurs. Donc voilà, c'était ça le thème. Et donc j'ai prêché plutôt sur l'invitation à l'humilité.
Redites-nous l'origine du mot humble.
C'est humus, la terre. C'est-à-dire, ça fait allusion au livre de la Genèse où Dieu modèle l'homme à partir de la glaise et insuffle son souffle, son esprit. Eh bien voilà, nous n'avons jamais oublié que nous sommes des terreux. Des glaiseux comme mais nous sommes aussi habités d'un souffle. Et donc j'ai invité à dire, il faut, si on veut avancer dans la vie, il ne faut pas se faire illusion, il ne faut pas avoir une image de soi qui soit à côté de la réalité de ce que nous sommes. Donc il ne faut pas présenter au Seigneur un saint de plâtre, parce qu'un saint de plâtre, le Seigneur ne peut pas faire grand-chose. Il préfère qu'on soit devant lui tel que nous sommes, avec nos richesses, nos qualités et puis nos fragilités. Parce que c'est tel que nous sommes qu'il peut nous rejoindre, qu'il peut nous toucher, qu'il peut nous convertir, alors qu'un saint de plâtre qu'on lui présenterait, il ne peut rien faire.
Je reviens à M. le Naturier, notre président. Vous avez évoqué les statues, et la Sainte Vierge en particulier. Est-ce que vous pourriez évoquer, Marie, cette sculpture ?
C'est une sculpture dont on est très fier par son iconographie. C'est une Vierge à l'enfant, bien sûr, mais qui tient l'enfant Jésus dans ses bras, et l'enfant Jésus lui-même retient la colombe qui s'envole en la tenant par les ailes. C'est un geste extrêmement local, il n'y a qu'ici qu'on voit ça, c'est une iconographie spéciale à Villevillon. Alors, nous pensons que les habitants de Villevillon étaient des agriculteurs qui connaissaient parfaitement les oiseaux. Et cette iconographie de l'oiseau qui s'envole semble représenter l'actualité des habitants de cette paroisse. Ils ont voulu, et c'est les sculpteurs de l'époque qui cherchaient certainement les sujets parmi les habitants, ils ont pris comme modèle de la Vierge une fermière, elle est comme une fermière qui tient l'enfant et l'oiseau qui s'envole. Donc c'est extrêmement touchant et, si vous voulez, c'est très parlant sur la foi des habitants de cette paroisse.
Oui, alors justement, nous évoquions la terre, l'air. Et alors, je me suis aperçue qu'il n'y avait plus non plus de cimetière autour de l'église et que ce cimetière avait été transporté. Et alors, vous m'avez expliqué qu'à ce moment-là, les gens ont voulu avoir trace des tombes qui étaient là. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce sujet? Parce que c'est fort intéressant de voir les graffitis. Et j'aimerais que vous expliquiez à nos auditeurs en quoi ça consiste exactement.
C'est toute une recherche qui a été faite par un chercheur spécialisé qui a étudié les graffitis qui sont portés sur les pierres de construction des églises, pas seulement du Perche, de toutes les églises où on pouvait inscrire quelque chose. Et notamment, ces inscriptions représentent pour les habitants une marque de l'endroit où leurs parents, leurs ancêtres sont enterrés. Parce que à l'époque, les enterrements dans le cimetière étaient anonymes. C'était une fosse commune. Et les habitants, pour avoir un endroit où, disons, prier pour leurs défunts, ils faisaient une marque dans la pierre de l'église qui représentait la tombe.
Donc là, on peut voir, en se promenant autour de l'église, on peut voir ces marques. Alors, expliquez-nous. Quelles sont ces marques, justement?
C'est pas très compliqué. Ces marques représentent en principe des calvaires. C'est une barre verticale avec le pied du calvaire. Ça représente le calvaire et une barre en haut qui fait le crucifix. Donc, c'est ça la marque faite à la main sur les pierres. On en trouve sur beaucoup d'églises, mais il y en a à Villevillon. Et en plus, il y avait quelque chose de plus que je ne connaissais pas, qui a été montré, c'est que les pèlerins prélevaient de la pierre pour la consommer.
Oui, alors ça, c'est très intéressant, parce qu'on ne pense pas à ça. Vraiment, c'est étonnant, je dirais.
Les pèlerins voulaient s'assimiler la pierre sainte, et donc ils en prenaient un morceau, ils le faisaient diluer, et ils le buvaient carrément. C'est pour ça qu'on trouve dans l'église des trous. Et c'est le chercheur qui nous a expliqué, ces trous, en réalité, c'est des pèlerins qui ont prélevé la pierre de l'église pour la consommer.
Oui, alors Monseigneur, peut-être...
Bien, moi j'apprends des choses.
Oui, nous en avions parlé ensemble, et vous voyez que à Villevillon, c'est très important, parce qu'il y a tous les gestes des pèlerins, je dirais.
Qui sont inscrits dans la pierre.
Voilà, exactement, qui sont inscrits dans la pierre.
Mais dites, en vous écoutant, là, et ceux qui vont nous entendre à la radio vont se dire, mais tiens, ça, j'ai envie de venir voir cette église, comment on fait pour, Monsieur le Président?
La visite de l'église se fait tous les premiers dimanches du mois. L'église est ouverte, elle ne peut pas être ouverte en permanence. Les exigences d'un monument aussi riche empêchent de l'ouvrir en permanence. Il faut sans arrêt surveiller. On surveille d'autant plus qu'on a été victime de vols, comme vous savez, et donc il faut une surveillance totale au moment des visites. C'est pas spécial à Villevillon, mais si bien que il y a une règle constante, c'est tous les premiers dimanches du mois, l'après-midi.
Je voudrais ajouter que Madame Le Teinturier est une spécialiste. Quand on la rencontre, eh bien, on passe 3-4 heures dans cette église parce qu'elle la connaît par cœur.
Donc les visites sont d'avril à octobre et pas l'hiver parce que c'est trop froid. 14h à 18h, les premiers dimanches du mois, d'avril à octobre.
Eh bien, je crois que nous aurons fait un peu, je dirais, le tour de cette église. Grâce à vous tous, un grand merci, Monseigneur, parce que c'est vous qui avez bien voulu organiser cette mini-conférence. Et je vous remercie tous d'être venus dans cette belle église de Villevillon. Et j'invite nos auditeurs à venir aussi rejoindre Villevillon, parce que c'est une vraie leçon d'histoire et aussi une histoire religieuse, puisqu'on y retrouve absolument tous les éléments dans cette église. Un grand merci à vous tous.
Merci à vous aussi, Christiane, de nous avoir fait parler et découvrir par l'oreille, avant de venir le voir de nos yeux, cette belle église. Et je voudrais saluer tout le travail fait par les habitants de ce village que vous avez évoqué, monsieur le maire adjoint, et puis par l'association pour que cette église reste une église pas simplement restaurée au musée, mais reste une église vivante, témoin d'une longue histoire à la fois du pays, une longue histoire culturelle et une longue histoire de la foi.
Un grand merci à vous, Monseigneur.